Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 14, nous allons voir la deuxième moitié de ce chapitre, mais pour nous mettre un peu dans le contexte, pour nous rappeler le contexte, on va lire les quatre premiers versets et ensuite on sautera pour lire à partir du verset 13. Donc Romains chapitre 14, nous lisons les versets 1 à 4 pour commencer. Et voici la parole de Dieu. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et donc, on continue la lecture, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons commencé à voir avec l'apôtre Paul qu'il y a des choses que les chrétiens ont parfois du mal à gérer. Et l'une de ces choses, ce sont les différences dans la pratique. Et pour aborder cette question, l'apôtre Paul a commencé cette section au chapitre 12, dans les premiers versets, en nous exhortant à nous donner au Seigneur, sans réserve, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour le Seigneur et d'avoir nos vies transformées par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul nous a déjà emmenés dans différents domaines pour nous montrer qu'une compréhension claire de l'Évangile transforme la vie pratique, la vie chrétienne pratique. Et Paul est arrivé à cette section qui commence au chapitre 14 pour nous emmener pratiquement jusqu'à la fin du chapitre 15. Paul est arrivé à cette section avec une préoccupation qui l'anime non seulement pour l'église à Rome, mais pour d'autres églises. Paul est préoccupé par ce principe de l'unité dans l'église, l'unité dans la communauté chrétienne. Paul n'est pas intéressé par une conformité superficielle ou une conformité extérieure, mais par une unité de cœur. Et un des points principaux que Paul souligne ici, C'est que l'unité chrétienne, la communion du peuple de Dieu, ne dépendent pas de nous qui serions d'accord sur chaque application pratique. Notre unité, souligne l'apôtre Paul, est en Christ. Nous avons été unis à Christ. Nous avons été incorporés dans l'Église, dans l'épouse de Christ, à des moments différents, à des âges différents, à des vitesses différentes. On ne saisit pas tous la totalité de l'Évangile de façon instantanée quand on devient chrétien. On vient à comprendre comment l'Évangile se traduit en pratique dans nos vies à des vitesses différentes. Par exemple, est-ce que nous avons compris la souveraineté de Dieu dès que nous sommes devenus chrétiens? Ou est-ce que cela a pris quelques années avant de comprendre la souveraineté de Dieu? Ce qui est frappant au sujet de la souveraineté de Dieu, c'est que beaucoup de chrétiens qui ont, pendant un temps, tourné le dos à la souveraineté de Dieu pendant des années, dès qu'ils comprennent la souveraineté de Dieu, ils voudraient que les autres chrétiens comprennent de suite la souveraineté de Dieu, alors qu'eux, ils ont mis peut-être des années à la comprendre. Mais toute la vie, toute la communauté chrétienne, toute l'assemblée, toute la vie de l'assemblée est concernée par cela. Nous comprenons l'Évangile, que nous soyons faibles dans la foi, que nous soyons forts dans la foi. Et nous avons besoin d'apprendre, nous dit Paul, à prendre soin les uns des autres au fur et à mesure que l'Évangile œuvre en nous et qu'il nous transforme de plus en plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui préoccupait Paul, et on l'a souligné déjà la semaine dernière, c'est une différence très évidente entre les chrétiens à Rome, des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine non-juive, d'origine païenne. On l'a souligné la dernière fois, en l'an 49, l'empereur Claude a chassé de Rome toutes les personnes d'origine juive, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Cette église à Rome était composée jusque-là majoritairement de personnes d'origine juive. Et lorsque ces chrétiens d'origine juive ont pu revenir à Rome des années plus tard, ils ont vu que l'Évangile avait progressé, que l'Église était maintenant composée majoritairement de chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive. Et Paul veut s'adresser, il veut traiter cette différence dans la pratique qui a le potentiel de causer une division profonde, voire même de détruire l'Église. Et c'est important pour nous d'être au clair au sujet de la question à laquelle s'adresse Paul. Paul s'adresse à une question de conscience. Il y avait des chrétiens dans l'Église à Rome, ceux qui avaient été instruits pendant leur jeunesse dans la loi de Moïse, dans le calendrier des fêtes du judaïsme. Pour eux, manger une sorte de viande, une viande qui n'était pas cachère, c'était quelque chose que leur conscience ne pouvait pas tolérer. Parce qu'ils avaient été instruits, ils avaient été éduqués, enseignés qu'il ne fallait pas manger ce genre de viande. Il fallait que la viande soit cachère. Ils avaient aussi été éduqués à se conformer au calendrier des fêtes juives. Les faibles dans la foi, dans l'Église, pensaient que c'était mal de manger de la viande qui n'était pas cachère. Mais en même temps, ils se sentaient obligés de distinguer, de faire la différence entre les jours. D'autres, dans l'assemblée, se sentaient libres de manger, de boire, sans se poser de questions. Ils se sentaient libres de considérer tous les jours comme étant égaux. Et on peut voir la tension qui peut facilement être créée dans l'assemblée. Et que si on ne s'adresse pas à cette tension, elle peut amener à la division dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé au XXIe siècle, ça existait déjà dans l'Église du premier siècle. Et Paul traite donc cette question des différences. Il faut être clair, ce n'est pas une question de salut au sujet de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, comment on devient chrétien, comment on appartient à Christ. Paul s'adresse à tous ceux qui sont à Rome, qui sont unis à Christ dans la foi, des frères, des sœurs en Christ, qui croient tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres. La question n'est pas non plus une question de préférence. Ah, toi, tu aimes ça, moi, je préfère ça. Non, c'est une question de conviction. Mais notez aussi que ces questions sont des questions d'importance secondaire. Le problème, c'est que la controverse au sujet de ces questions peut devenir de première importance. Et c'est là le problème. Les questions d'importance secondaire au sujet du manger, du boire, des jours à observer, sont poussées vers une place, vers une première place, une place de première importance. Et ils deviennent capables de diviser, voire de détruire l'Église. Et toute l'approche de Paul consiste à souligner que les questions de seconde importance ne doivent jamais être considérées comme des conditions premières à la communion fraternelle. Paul dit aux forts, « Accueillez celui qui est faible, ne cherchez pas à les remettre à l'endroit. » Non, accueillez-les tout simplement. Et c'est ce qui est le plus difficile pour le fort à qui Paul adresse ses remarques, mais c'est aussi difficile pour le faible, qui serait prompt à juger et à condamner le fort pour son attitude. Et pour beaucoup d'entre nous, je dirais même la totalité d'entre nous, qui ne passons pas directement de la régénération à la glorification, nous avons en nous cet instinct qui nous pousse à vouloir corriger les autres. Et c'est très dangereux si cet instinct est relâché dans la vie de l'Assemblée. Paul nous donne ce merveilleux conseil d'accueillir les faibles, de ne pas discuter les opinions, d'honorer une motivation qui est sérieuse, qui est consciencieuse, de comprendre que le frère fait ces choses parce que le frère veut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et en comprenant que le faible fait ces choses pour le Seigneur, on comprend alors aussi qu'il se tient ou il tombe devant le Seigneur et non pas devant nous. Son maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas nous. Et quand on arrive donc à cette deuxième partie du chapitre qui commence au verset 13, Paul nous donne ce qu'on pourrait résumer sous trois résolutions que nous ferions bien d'écrire sur nos cœurs comme étant les implications de l'Évangile. La première résolution, être déterminé à ne jamais être une pierre d'achoppement pour un autre croyant. Être déterminé à ne jamais être une pierre d'achoppement pour un autre croyant. Paul, et c'est intéressant de le noter, Paul fait allusion au groupe auquel il appartient. Il se décrit comme étant faisant partie des forts. On l'a cité déjà la dernière fois au chapitre 15 et verset 1. Il dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Ici, au chapitre 14, verset 14, il dit, « Je sais. » Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et c'est le principe central. Rien n'est impur en soi. Et là, bien sûr, il fait allusion à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La fonction pure-impure a été consommée dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus cette distinction entre un aliment pur et impur. On peut manger de tout. Tout est pur en soi. Alors bien sûr, il y a des choses que nous ne voulons pas manger, que d'autres, dans d'autres parties du monde, raffolent. Mais le chrétien est libre de manger de tout. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Mais, dit Paul, même si cela est vrai, je suis conscient de mes frères, de mes sœurs qui avancent à un rythme différent, qui viennent d'arrière-plan différent. Et quand il y a ce genre de différence, quand des personnes avancent à des rythmes différents, c'est ma responsabilité de ne jamais mettre une pierre d'achoppement sur leur chemin. C'est plus important, dit Paul, c'est plus important que l'exercice de ma liberté. En fait, on le sait déjà en lisant les Actes des Apôtres, que les croyants avancent à des rythmes différents. Même les apôtres eux-mêmes avançaient à des rythmes différents. Jésus a enseigné qu'on pouvait manger de tout. Les apôtres ne mangeaient pas de tout. Rappelez-vous cette vision que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre pour qu'il soit prêt à aller dans la maison de Corneille, un non-juif. Quand Pierre a vu ces animaux, ces oiseaux, qui, alors qu'il dormait sur le toit de la maison de Simon le tanneur, qu'il a entendu la voix de Dieu venant du ciel lui dire « Pierre, lève-toi, mange !» Pierre a répondu « Mais non, jamais de la vie ! Je ne mange pas ce genre de choses. Je suis un croyant juif cohérent. Je ne mange pas ce genre de choses. » Certains temps après la Pentecôte, qui avait amené cette nouvelle ère dans laquelle juifs et non-juifs seraient réunis dans l'Évangile, Simon-Pierre était toujours en train de résister aux implications de l'Évangile. Était possible pour Pierre de prêcher le sermon en Acte 2 sans avoir compris les implications de l'Évangile dans la pratique? Et donc c'est avec cet arrière-plan que Paul est très sensible à la personne qu'il décrit comme étant le frère plus faible. Et on a dit que c'était souvent aussi un frère qui pense avoir une conscience forte, une conscience aiguë. La conscience de Pierre était forte. Quand Dieu s'adresse à lui, qui lui dit de se lever, de manger, Pierre dit non, jamais. Jamais de la vie. C'est la réponse de quelqu'un qui a une conscience forte. Et c'est aussi la réponse de quelqu'un qui a une foi faible. L'Évangile n'a pas entièrement pénétré cette foi. Mais remarquez ce que Paul dit. Ensuite, verset 14, « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Est-ce que cela veut dire que c'est nous qui décidons ce qui est pur et ce qui est impur, que nous sommes les arbitres de nos propres décisions? Non. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que si je suis convaincu dans ma conscience qu'une chose est impure, alors pour moi cette chose est réellement impure. Il rajoute au verset 15, « Soyez sûrs de ne pas pousser un frère, une sœur à agir contrairement à sa conscience. » Par contre, ce que nous sommes appelés à faire sur le long terme, nous sommes appelés à voir nos consciences pleinement instruites et libérées par l'Évangile. Cela ne veut pas dire que nous poussons un autre croyant à trébucher en agissant de manière contraire à l'Évangile. Mais nous voulons être pleinement instruits et connaître la liberté de l'Évangile, la liberté en Christ. Paul dit au verset 15, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » Le principe là est très simple. L'amour pour le frère l'emporte sur tout plaisir que l'on peut avoir dans la liberté que nous avons en Christ. Il y a une genre de hiérarchie. Ce qui compte le plus dans ma liberté de faire ceci ou de faire cela, c'est de poser la question. Est-ce qu'en agissant ainsi, je prouve mon amour pour mon frère ou ma sœur en Christ? À la fin du verset 15, Paul rajoute, « Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Paul est en train de dire que ce n'est pas seulement un principe de notre amour pour l'autre, mais c'est un principe d'être fixé sur l'amour de Christ, l'amour de Jésus-Christ pour le frère plus faible, m'interdit de faire quoi que ce soit qui aurait le potentiel de causer sa ruine spirituelle. Et Paul dit au verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, ou on peut le traduire d'une autre manière, que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Paul est en train de dire ici, si j'insiste sur mes droits, si je me vante de mes libertés, alors je déshonore le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans cette merveilleuse déclaration, Paul dit que l'Évangile n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Soit dit en passant, c'est le verset avec lequel Martin Lloyd-Jones a terminé sa série de prédications sur cette lettre aux Romains au bout de 15 ans. Mais Paul nous dit ici que nous sommes libres en ce qui nous concerne, ce qui concerne les régimes, en ce qui concerne les jours, mais nous ne sommes pas libres de provoquer le trébuchement d'un frère ou d'une sœur et de détruire sa conscience. Et donc, celui qui dit que sa liberté ne sera pas une pierre d'achoppement pour son frère ou pour sa sœur en Christ, c'est celui qui a le sens des priorités. Verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il arrive parfois que, quand un chrétien découvre ses libertés en Christ, il va insister sur ses libertés. Et Paul nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'insistance sur nos libertés dans la vie ou dans l'Église, parce que la liberté dont nous jouissons nous a été donné pour que nous aimions les frères et les sœurs en Christ, pour devenir leurs serviteurs, parce que c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il s'est fait notre serviteur pour notre salut. Quelle serait notre situation aujourd'hui si le Seigneur Jésus-Christ avait insisté sur ses droits? Alors quand l'Évangile vient nous toucher, dans ce contexte où des chrétiens sont en désaccord sur certains aspects pratiques, l'Évangile nous appelle à un service, comme le service du Seigneur Jésus-Christ, envers ceux que nous considérons comme étant faibles dans la foi. Voilà donc la première implication, être la première résolution, être résolument déterminé par la grâce de Dieu, à ne jamais être une pierre d'achoppement pour un autre croyant. Sinon, nous mettons en danger la communion fraternelle dans l'Assemblée. La deuxième résolution, être déterminé à toujours chercher à encourager et non à faire trébucher. Être déterminé à toujours chercher à encourager et non à faire trébucher. On voit cela dans les versets 19 à 21, Paul écrit ainsi donc, « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. » Si, comme au verset 17, Paul dit que le royaume de Dieu est la paix, alors la paix est la priorité dans la vie de l'Assemblée. Et je vais poursuivre dans la vie de l'Assemblée ce qui va promouvoir la paix, pour le bien de l'Assemblée, pour l'encouragement et l'édification des croyants. Encore un aperçu très utile que Paul nous donne. Non seulement je prends la résolution que par la grâce de Dieu, je ne serai plus une pierre d'achoppement pour mon frère ou ma sœur, mais je prends aussi la résolution que par la grâce de Dieu, je devienne un moyen d'encouragement, d'édification pour mon frère ou ma sœur en Christ. Parfois, dans ce genre de situation, on va dire, oui, mais il n'y a rien de mal avec ce que je fais. Mais la question dans ce contexte, ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais Est-ce que cela encourage mon frère? Est-ce que cela encourage ma sœur? Est-ce que cela va les aider? Est-ce que cela va les édifier? Paul souligne cela au verset 19. Et il fait la même chose à plusieurs reprises dans sa lettre aux Corinthiens, dans une situation différente, mais il souligne des choses similaires parce que l'Évangile résout différents problèmes de la même manière. La résolution, c'est de décider de vivre pour édifier mon frère, ma sœur en Christ. Et vous voyez les résultats de cela, l'implication et la conséquence de cela. Quand ça, c'est la perspective qui dirige ma vie. Alors j'ai cessé de me focaliser sur moi-même. J'ai cessé de penser, je dois vivre pour moi, je dois vivre pour mes libertés, je peux vivre ma vie comme je veux. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi un serviteur des autres. Comme Paul l'a souligné, on est en Corinthiens chapitre 8 et verset 1, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est vrai individuellement, c'est aussi vrai en tant qu'assemblée. Si nous avons des grosses têtes remplies de théologie, mais des cœurs appauvris, avec peu d'amour, nous sommes dans une situation spirituelle préoccupante. Paul dit à ses croyants à Rome, « Voilà, je vous ai confié cette lettre à vous, et à personne d'autre. » Imaginez que nous soyons la seule église à Chalon qui Paul a écrit cette lettre. On serait en train de faire le tour de Chalon, de la région, de demander, mais quelle est la lettre que vous avez reçue? Nous avons reçu Romain. Ils seraient excités comme des gamins, parce qu'il y a tellement de connaissances dans cette lettre. Mais le but de cette connaissance, c'est de nous enseigner comment nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. C'est ce dont Paul parle. On peut faire essentiellement deux choses avec nos pieds. On peut faire trébucher un autre croyant. Ou alors on peut donner un coup de pied dans la pierre d'achoppement pour la faire disparaître de notre vie et ne plus être une occasion de chute pour le frère ou la sœur. Et donc, nous sommes face à ce choix. M'adapter aux scrupules d'un frère ou d'une sœur en Christ et chercher à les édifier, ne pas les laisser là où ils sont, mais de prier pour le ministère de la parole afin que leur conscience soit éclairée, instruite, que ces personnes soient transformées, deviennent libres par l'Évangile, deviennent libres, connaissent la liberté en Christ. Ou alors je peux ignorer les scrupules de mon frère ou de ma sœur et lui mettre mon poing sur le visage alors qu'il est déjà à terre. Je dois donc me poser deux questions. Est-ce que je suis prêt à détruire l'œuvre de Dieu pour de la viande, pour un aliment? Est-ce que je vais faire trébucher mon frère ou ma sœur sur le plan spirituel? Et Paul dit d'une certaine manière, au verset 14, que c'est bon de se sentir libre sur ces questions. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais il y a un domaine où on n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres de faire trébucher un frère ou une sœur en Christ. Première résolution, ne jamais être une pierre d'achoppement pour un autre. Deuxième résolution, chercher à encourager et non à faire trébucher le frère ou la sœur. Troisième résolution, être déterminé à jouir de notre liberté sans nécessairement exercer notre liberté. Être déterminé à jouir de notre liberté sans nécessairement exercer notre liberté. Et c'est le point qu'il souligne dans les versets 22 et 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Et le mot là, c'est le même mot que le mot au verset 22, le mot foi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, d'une foi, est péché. Ça veut dire que si je pousse un frère ou une sœur à agir contrairement à sa conscience, je contribue à sa chute spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, et c'est merveilleux. Je n'ai pas besoin d'exercer ma liberté pour en jouir. Je n'ai pas besoin d'exercer mes libertés pour en jouir. Par implication, cela veut dire, si je dois exercer mes libertés pour en jouir, alors je suis retombé en esclavage. J'ai perdu ma liberté spirituelle. Je suis devenu prisonnier des choses que je croyais être mes libertés. Si j'insiste pour exercer mes libertés, pour étaler, pour me vanter de mes libertés, je ne suis pas libre. Je suis devenu esclave. L'homme libre en Christ, la femme libre en Christ, et l'homme ou la femme qui est capable de jouir de sa liberté tout en soumettant l'exercice de sa liberté aux besoins des autres croyants. La question pour nous, c'est est-ce que je suis prêt à m'abaisser autant? Est-ce que je suis prêt par amour pour un frère, pour une sœur en Christ, à dire je ne mangerai pas de viande ou d'un autre aliment si cela devient une occasion de chute pour mon frère ou ma sœur? Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que les privilèges de notre communion sont des privilèges qui sont très grands, mais qui sont aussi très sensibles. Nous devons donc prendre la résolution de ne rien faire qui pourrait détruire la beauté de notre communion en Christ. Martin Luther, le réformateur, nous résume ainsi dans son traité de la liberté chrétienne. Il écrit: le chrétien est l'homme le plus libre. Maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. Et un peu plus loin, il dit: l'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. Et il poursuit: ces affirmations semblent se contredire, mais elles sont l'une et l'autre de l'apôtre Paul lui-même. Bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, dit-il en Nom 41:9, je me suis fait serviteur de tous. Et en Romains 13, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Or l'amour est serviable par nature, et il cède à celui qui est aimé. De même, bien que Seigneur de toute créature, Christ est né d'une femme. Il est venu se mettre sous la loi. Tout à la fois libre et serviteur, tout ensemble en forme de Dieu et en forme de serviteur. Paul s'adresse donc à des chrétiens qui voulaient mettre d'autres chrétiens à l'endroit. Les questions étaient secondaires, mais il y avait cet esprit qui était là, qui les poussait à vouloir remettre les autres à l'endroit. Et Paul dit: une telle attitude manifeste un emprisonnement spirituel et non la liberté. Voilà donc le chapitre 14 en entier. Paul s'adresse à des croyants, à des chrétiens qui croient tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres, mais qui ont des différences dans l'application pratique. Il a commencé à nous rappeler, à nous dire: prenez la résolution d'accueillir, de faire bon accueil aux autres croyants, parce qu'ils appartiennent à Christ. Prenez la résolution de reconnaître que Christ est le seul juge d'un autre croyant. Prenez la résolution de ne jamais mettre une pierre d'achoppement sur le chemin d'un autre croyant, mais cherchez à édifier plutôt qu'à faire trébucher. Prenez la résolution d'être capable de jouir de vos libertés que Christ vous a données, même si vous n'êtes jamais en position d'exercer aucune de ces libertés. C'est une question de cœur. Les régimes, les jours, ce sont des choses secondaires. Paul se préoccupe de notre cœur. Est-ce que notre cœur est fixé sur le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est en lui que nous avons la communion. C'est en lui que nous sommes partis de son peuple. Est-ce que notre cœur est fixé sur le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu nous accorde la grâce à tous de pouvoir répondre oui à cette question. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.